Bonne fin de soirée, bienvenue à l'Antichambre. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Ben, c'est notre première semaine, première émission de 60 minutes. Et ce sera aussi la première apparition cette année de Manon Réaume qui sera là avec nous un petit peu plus tard pour sa chronique sur son 33. Après de courtes vacances, ils sont de retour. Vincent Danfousse, Danny Dubé, Denis Gauthier. Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Ça commence à sentir le hockey. Demain, le début du camp des recrues. Et dans 8 jours, le début du camp du Canadien. Petite fébrilité, tranquillement, qui s'installe.
Presque eu le temps de s'ennuyer, hein, monsieur?
Presque. Et ce ne sont pas les sujets qui manquent pour le Canadien, qui nous a tenus quand même passablement occupés cet été. Oui. Allons-y tout de suite avec les manchettes Albi Le Géant. Denis, pour commencer.
Bien, écoute, dans une année où il y a eu beaucoup de succès pour le Canadien en fin de saison, en finale de la Coupe Stanley, il y a eu beaucoup de changements pareils durant l'été. Puis je me dis, bien... Là, il y a des questions. Qui va jouer avec qui? Qui sera dans l'alignement? Qui sera laissé de côté? Comment est-ce qu'on va gérer et jongler tout ça si je suis Dominique Ducharme? Mais la réponse, elle viendra des joueurs, tout simplement. Mm-hmm. On verra le camp d'entraînement, comment ça va se dérouler. Qui va prendre l'opportunité qui se présente devant eux? Parce qu'il y en aura des opportunités sur des trios, jouer au centre. Qui va jouer être capable de jouer au centre? Est-ce que c'est assuré que le troisième centre, c'est Evans? Est-ce que c'est Pocket? Est-ce que c'est Paling? Les ailiers, est-ce qu'on joue sur le premier ou troisième trio? Parce que du talent et de la profondeur, on en a. Donc, Dominique Ducharme peut quand même faire tous les dessins qu'il veut sur son tableau dans le bureau, mais en bout de ligne, quand la dernière journée du camp sera là, c'est les joueurs qui auront dicté qui méritera d'être dans l'alignement et à quelle position quand on commencera le jour 1. Donc, il y aura beaucoup de spéculation d'ici ce temps-là, mais pour l'instant, c'est notre jeu et ça va être bien plaisant.
Tu sais, le jeu de casse-tête, là, le plus intéressant présentement, c'est de faire des trios chez le Canadien présentement. Toutes les combinaisons sont possibles, c'est bon pour la discussion. Bref, on n'a pas fini d'en parler des trios chez le Canadien. Danny, ta première manchette de la saison.
Première manchette de la saison, ben pour moi, c'est un peu un vieil adage. Pas de stabilité, pas de progression. Je pense que ce qui est très important dans une équipe de hockey au départ, c'est de créer un élément de stabilité. C'est-à-dire que, bon, utiliser les expressions consacrées, tout le monde trouve sa chaise, tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle. Lorsqu'il y a beaucoup de changements, la dynamique change. Le leadership, tout ce qui va se passer à l'interne dans le vestiaire va changer. Ce changement de dynamique, ça implique beaucoup plus de travail pour les entraîneurs. Pour essayer de, justement, créer cette stabilité. Parce que si t'as pas de stabilité, c'est comme dans une entreprise, c'est comme n'importe où. Si t'es pas capable de stabiliser ta performance, tu peux pas la faire progresser. Tu vas avoir des bonnes, des moins bonnes performances. Tu vas être à la recherche un peu de ton identitaire. Alors, pour ces raisons-là, avec les nombreux changements de l'équipe, avec l'absence de certains joueurs qui étaient très influents, qui avaient un ascendant dans le vestiaire, je considère que ça va être difficile d'avoir des performances tant qu'on n'aura pas créé cette stabilité. Et espérons-le tous, la création de cette espèce de zone de confort viendra assez rapidement. Il ne faut pas trop perdre de temps avec ça. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche pour les entraîneurs.
Notamment la question du leadership, ce sera un des sujets que l'on va parler un petit peu plus tard avec l'absence, bon, Weber, Perry et compagnie. Vincent, ta manchette.
Bien, dans le même sens, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation encore chez les Canadiens. Oui, il y a des opportunités, il y a des nouveaux joueurs, il y en a qui sont partis, il y a des leaders comme Weber, est-ce qu'il va revenir cette année? Mais je regarde, entre autres, deux vétérans chez le Canadien, Drouin, comment est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va être en bonne santé physiquement ou aussi mentalement? Est-ce qu'il va être prêt à retourner au travail puis performer? Et l'autre que je regarde aussi, c'est Gallagher. J'ai hâte de voir, est-ce qu'il va être capable de produire 30 buts par année sans Tatar, sans Dano? Est-ce qu'il va avoir de la chimie avec le centre et l'ailier gauche avec qui il va évoluer? Donc, pour moi, c'est des points d'interrogation. J'espère que les nouveaux joueurs comme Hoffman et Toffoli, qui étaient là l'année passée, vont continuer à produire parce qu'on va avoir besoin d'attaque. On espère que les jeunes aussi vont se développer, continuer à se développer, Caulfield, Suzuki, Romanov. Beaucoup d'incertitudes. C'est sûr qu'on va peut-être avoir des surprises, des belles surprises, mais c'est difficile à savoir maintenant, OK, le Canadien va se placer où en fin de saison? Est-ce qu'ils vont être dans les séries, pas dans les séries? C'est difficile à dire.
On va en parler justement dans le deuxième bloc de l'émission, mais parlant de points d'interrogation, première question ce soir, quand on voit les départs et les arrivées chez le Canadien, est-ce que sur papier, le Canadien est une meilleure équipe ou à tout le moins une équipe équivalente à celle qui a atteint la finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay? Denis, d'abord.
Ben moi, j'ai de la misère à voir comment on s'est amélioré nécessairement. J'aime bien certaines additions. J'aime le potentiel de certaines additions. J'aime Dvorak, évidemment, dans l'échange après avoir perdu Kotkaniemi. J'aime le potentiel d'un gars comme Hoffman, mais il vient avec son bagage également de doutes et de craintes de ce que ce genre de
change pas d'équipe à chaque année depuis certains... Pour une,
plusieurs raisons. C'est ça, exact. C'est pas pour rien. Fait que, tu sais, au niveau du talent, tout ça, tu sais, on peut, c'est débattable. Pour moi, c'est toujours les intangibles qu'on a perdus cette année en perdant Perry et en perdant Weber. Là. Il est blessé, mais c'est pas qu'on l'a perdu. Là, mm-hmm. Ça, son absence, pour moi, va faire que le Canadien va souffrir à un certain moment donné de sa présence, de son aura. T'sais, c'est un gars qui est respecté, c'est un gars qui est intimide, mais c'est aussi un gars qui garde un vestiaire droit juste par sa présence. Il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de tout casser. C'est un gars qui est capable de garder un vestiaire très, très droit à sa place. Puis pour moi, c'est la chose que le Canadien va manquer le plus avec tous les changements qu'il y a eu durant l'été. Ouais.
Danny, quand tu vois la situation, puis le point de ta manchette est excellent. Ce groupe-là, on le sentait transporté par une unité durant les séries éliminatoires. Ouais. Là, évidemment, il y a des pièces qui manquent au puzzle. Et de créer ça rapidement, est-ce qu'on peut quand même espérer pour les partisans rapidement une équipe compétitive quand même.
C'est drôle parce que on regarde le... on pourrait s'asseoir puis discuter deux heures de temps puis pas trouver vraiment de conclusion finale à ce qu'on analyse parce que il y a tellement de points d'interrogation. Mais pour moi, il y a des choses qui sont assez évidentes, c'est que le Canadien s'est un petit peu éloigné de son ADN avec ses acquisitions. Donc, je pense que ça va être une meilleure équipe en avantage numérique. C'est mon interprétation. J'ai l'impression qu'il va y avoir des joueurs qui vont être capables de produire offensivement sur l'avantage numérique. Caulfield, ça va définitivement être une menace. Je pense que Dvorak va amener une dimension que Perry amenait à sa façon, mais bon, ça va être une autre affaire. Mais présence devant le filet, Hoffman, c'est quand même un joueur d'avantage numérique. Là. Il est reconnu
pour
produire, ça.
Il peut produire, absolument.
Donc, je pense qu'ils vont être meilleurs en avantage numérique. Je pense qu'ils vont être moins bons à 5 contre 5. Je pense qu'ils vont être moins efficaces.
Ce qui était une des forces de cette équipe.
C'était l'ADN de l'équipe.
Exact.
Le départ de Dano, pour moi, ça n'a pas été une bonne nouvelle dans la structure de l'équipe. Parce que Dano, en plus d'être à l'aise avec ses coéquipiers de trio, tantôt Vincent faisait état, puis je suis tout à fait d'accord, ça laisse un point d'interrogation autour de Gallagher. Mais ça fait que là, tout à coup, on remplace Dano par Dvorak. Mm. Dvorak, c'est pas un jeu. Si tu prends les chiffres de Dvorak à 5 contre 5, puis ceux de Dano, il n'y a pas photo. Il ne faut pas se laisser berner par les chiffres en avantage numérique, parce que Dano ne jouait pas en avantage numérique. Et s'il y avait eu tant de glace de Kotkaniemi en avantage numérique, peut-être que ces chiffres auraient été différents. Ça n'aurait pas été une menace en avantage numérique. Il y aurait probablement eu ça. Donc là, on a un portrait qui est très différent, avec une équipe, d'après moi, qui, avec l'absence de Weber, comme Denis l'a mentionné tantôt, à 5 contre 5, là, ça va paraître énormément. Parce que même si David Savard, c'est un excellent joueur, là, il joue dans une situation où il va avoir à prendre plus de minutes. Dvorak a joué dans un environnement où il n'y avait absolument pas de pression. Là, il va être sous les feux de la rampe tous les jours, tous les
ça
matchs.
Ça va peut-être faire du bien, par exemple, de revenir dans un environnement comme Montréal.
Et aussi, Marc Bergevin, en faisant son acquisition, a de l'espoir envers lui d'avoir des responsabilités accrues. Et comme tu viens de le dire, Vincent, dans le marché de Montréal, est-ce que justement ce genre de joueur-là peut continuer aussi de produire?
Oui, parce qu'il y en a qui carburent à ça. C'est sûr, quand tu es dans un marché comme Arizona, des fois, tu ne sens pas le besoin de donner un deuxième effort. Puis des joueurs comme ça qui ont eu du succès dans le junior, qui ont eu un environnement, ils ont joué avec les Knights de London, un gros marché dans le junior, exact. Même si c'est pas la même chose. Je pense que c'est un gars qui va carburer à ça. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais moi, je suis d'accord avec Denis, puis avec ce que tu dis aussi. L'expérience des gars comme Stahl, Perry, a bénéficié aux jeunes, parce qu'ils sont rendus jusqu'en finale, ils ont vu comment se comporter. Mais celui qui est un superstar dans tous les joueurs qu'on voit dans les changements, c'est Weber. Il était excellent pendant 15 ans. C'est un gars qui a une prestance, c'est un gars qui est physique, c'est un gars qui produit. C'est pas David Savard qui va le remplacer, même si j'aime beaucoup David Savard.
C'est l'aspect robustesse qu'on peut... Seulement ça, là, qu'on peut les mettre sur le même...
Mais il produit pas autant que Weber. C'est un gars qui va te donner 15 buts par année, qui va te donner des points d'avantage numérique. Et c'est respecté de tout le monde à travers la Ligue. Puis ça fait mal quand tu vas en avant du filet, quand il joue. Fait que lui, est-ce qu'il va prendre sa retraite? Est-ce qu'il va revenir après les fêtes? Moi, j'espère que ça va lui donner, qu'il va avoir le goût de revenir à quelque part au mois de janvier, au mois de février, puis qu'il va revenir avec l'équipe parce que c'est un élément extrêmement important qu'on va potentiellement perdre.
On tend à mettre David Savard dans la même phrase que Shea Weber pour remplacer certains aspects. Mais les responsabilités de David Savard ne seront pas au même niveau. Est-ce que c'est pas un Jeff Petrie qui va prendre certainement des responsabilités supplémentaires en l'absence de Shea Weber, et que David Savard aura un rôle à la Ben Chiarot, d'être plus un défenseur, évidemment, défensif et solide?
Moi, je vais être un peu, tu sais, dans le sens inverse. Dans le sens que moi, je ne suis pas sûr que je veux en donner plus à Petrie que son rôle qu'il avait déjà. Je ne veux pas qu'il soit là pour remplacer le défenseur numéro un en Shea Weber. Parce que là, c'est lui mettre une pression que, tu sais, qu'en plus de celui sur qui on va compter pour amener la transition, la vitesse, un peu plus d'offensive, le transport de rondelles entre les deux lignes bleues, si on va lui donner une responsabilité de jouer contre les meilleurs joueurs adverses, ça, pour moi, c'est... Ça, je pense pas que c'est lui qui doit faire ça. Je pense que si on gardait la bonne formule qu'on avait avec Edmondson, Petrie, qu'on les laisse dans la même chaise, puis là, tu peux te revenir avec Chiarot et Savard. Si c'est le duo que tu décides d'opposer contre
les meilleurs...
Parce qu'on se souvient comment Chiarot, quand il a été bon l'année passée, il a été dominant sur l'aspect physique, au niveau défensif, sur les pénalités. Savard en a fait sa marque de commerce aussi de son jeu défensif, même si c'est un défenseur junior qui amenait beaucoup de points, beaucoup d'offensives, même à ses premières années à Columbus, un gars qui faisait 20-30 points par année. Il était capable d'amener un peu de mobilité, jouait un deuxième avantage numérique à l'occasion. C'est pas ce qu'on va lui demander ici. Mais ça serait difficile de demander à Petrie de dire « faut que tu prennes la place à Weber ». Pour moi, c'est juste « reste toi-même », puis on va essayer par comité de combler une certaine perte de Weber sur la patinoire.
Parce que la brigade défensive... Il y a Chris Weidman qui s'ajoute, mais bon, c'est un septième.
Un défenseur offensif.
Oui, c'est ça. Uniquement.
C'est ça.
Uniquement. Ouais. Donc, dans les changements, je vous parle de Mathieu Perrault. Est-ce que pour vous, il a un rôle important à jouer? On parle beaucoup de Cédric Paquette, mais Mathieu Perrault, plus âgé, mais est-ce qu'il peut venir aider cette équipe-là d'une certaine manière, comme vétéran, avec son expérience?
Moi, j'aime beaucoup Mathieu Perrault. Je trouve qu'il n'était pas dans une équipe où il pouvait s'exprimer offensivement parce qu'il était tellement solide à Winnipeg au niveau de l'attaque. Les centres avec Scheifele qui grugeait beaucoup de minutes. Il jouait à l'aile, c'est un gars d'énergie, c'est un gars qui fonçait au filet. Mais c'est un gars qui a produit avant. Là. Il a produit beaucoup dans le junior, puis il n'a jamais eu vraiment ce rôle-là, un peu à Anaheim. Il a eu quand même des saisons de 18 buts. Moi, je pense qu'à Montréal, on devrait l'essayer au centre. J'aimerais ça le voir sur le troisième trio, avec Drouin, avec Gallagher, parce que je ne suis pas sûr que Paquette a le flair offensif pour faire produire ces gars-là. Je ne suis pas sûr que Poehling non plus, et même Evans. Ça me prend un gars qui est capable de faire produire, qui est un gars d'énergie, qui est capable d'aller chercher rondelles dans un coin. Je le vois avec Drouin et Gallagher peut-être au centre au début de la... Peut-être un essai, puis donner une chance à ce gars-là qui a déjà démontré qu'il est capable de produire.
Est-ce que la ligne de centre suscite encore des inquiétudes? Bon, on peut utiliser Perrault au centre. Jake Evans peut amener du travail défensif, mais jusqu'à quel point il peut prendre le relais d'un...
Ben, écoute, moi, j'ai beaucoup aimé sa contribution. Oui. Là, quand il est en santé, là, vraiment, il m'a surpris. Je trouve qu'il y a une belle progression. Ça reste un joueur qui s'y limite à un moment donné dans le nombre de minutes. Moi, j'aime beaucoup l'idée de Vincent, de Mathieu Perrault. Je pense pas que Cédric, c'est un joueur qui peut jouer sur un troisième trio. Je pense que c'est un joueur de pression de rondelle. C'est un gars pour amener le jeu en territoire adverse. Amener de l'énergie, tout ça, c'est là où il est à son meilleur. Lorsqu'on augmente un peu les minutes, on augmente les responsabilités, prise de décision, tout ça. Pour moi, en tout cas, là, ça reste bien personnel, mais moi, il ne serait pas dans mes trois premiers centres, là. Ça, c'est sûr. Tandis que Perrault mérite cet intérêt-là parce qu'il a joué en avantage numérique, même devant le filet. Il a eu quand même des responsabilités élargies avec les Jets, malgré la qualité de leur alignement. Donc, lui, il a peut-être un petit peu plus à offrir. Et Evans, ben mon problème, c'est un problème de est-ce qu'il est capable de prendre la charge contre des gros trios, des équipes adverses? Oui, dans le cercle de mise en jeu, il a fait ses preuves, mais pour le reste, là, c'est long, 82 matchs.
Puis Perrault, c'en est un. Tu sais, je parlais de la manchette, là, des gars qui ont la réponse. Là. Perrault, c'en est un qui a la réponse. Aucun entraînement va nous démontrer.
Absolument.
T'sais, il a tout à gagner. C'est un gars qui semble présentement motivé. De tout ce que j'entends et ce que je vois dans mon patelin à Drummondville,
il est content
de venir ici. Puis c'est un gars qui arrive pas beaucoup de pression. T'sais, il est un peu sous le radar, en dessous d'un million. Il arrive, puis le monde... Écoute, c'est un gars, pour moi, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Puis c'est un gars qui a un peu plus de papier sablé que le monde lui donne crédit. C'est un gars qui va y aller en avant du filet, qui va aller dans les coins. Ouais. Il a pas peur. C'est pas le plus gros, mais c'est un gars qui... Qu'il y a un acharnement mêlé d'une bonne position. Dominique Ducharme va lui trouver la bonne chaise, mais mêlé d'une bonne position, je pense qu'il peut surprendre bien du monde.
Pour jouer avec Hoffman et Anderson ou Drouin ou Gallagher, c'est difficile de mettre un Poehling ou de mettre un Evans, de mettre un gars plus jeune qui n'a pas d'expérience. Si, ces deux gars-là qui... Tu sais, Gallagher, 30 buts, futur capitaine de l'équipe.
Oui, ça, c'est très important.
Perrault, il a 33 ans. Il a vécu... il est allé 3-4 équipes. Il a roulé sa bosse dans la Ligue nationale. Puis il attend juste ça, lui, de pouvoir démontrer son talent offensif. Puis là, possiblement, il y a une opportunité pour lui.
Parce qu'on bâtit avec les ailes à Montréal depuis un certain temps. Ouais. Donc, bien avoir un bon centre aussi, comme Perrault, ça peut être...
C'est parce que là, c'est démontrer aussi à tes vétérans, regarde... C'est un gars d'expérience. Ouais. Pour les vétérans, ils vont être plus à l'aise. À moins que le jeune soit exceptionnel. Là, mais dans ce cas-ci, je pense que Jake Evans demeure un joueur de soutien qui est très respecté pour toutes les raisons qu'on connaît. Là. Mais, en tout cas, c'est ça.
On verra les combinaisons de trio de Dominique Ducharme, mais Cole Caulfield, Nick Suzuki, on s'entend que c'est un duo.
Je pense pas qu'au début, on va faire ça. Ouais.
Bon, Caulfield à droite, Josh Anderson aussi à droite, Brendan Gallagher.
Armia.
Mais là, je parle de Brendan Gallagher.
OK, oui.
Est-ce que son rôle maintenant, là, Dano est parti, Tatar est parti, commence son gros contrat à 6 millions et des poussières, des grosses poussières, mais quand même, quel rôle pour Brendan Gallagher cette année, d'après vous?
Ben, tu sais, c'est un joueur clé au sein de l'équipe, il gagne 6 millions.
Faut que tu lui fasses plaisir aussi, à un moment donné.
Bien, pas si tu lui faire plaisir, mais il faut que tu sois cohérent avec ta décision. Ouais. Tu ne vas pas prendre un gars... Tu lui donnes le contrat, tu lui signifies qu'il est très important au sein de l'équipe. Après ça, tu le places dans une situation où tes actions, comment il est utilisé, c'est pas à la hauteur de ton engagement financier. Donc, c'est sûr que moi, je pense que, à un moment donné, tu dis, bon, peut-être que ça va être à un moment donné avec Dvorak, peut-être qu'on va faire des tentatives. Moi, je pense qu'on va essayer le plus possible de placer Gallagher dans une situation où il est confortable avec son joueur de centre et où il peut produire offensivement. Parce que là, sinon, là, écoute, moi, je comprends plus rien si on fait pas ça. Là.
Au moins lui donner la chance, parce qu'on sait qu'il y a du millage dans le corps. Et qu'est-ce qu'il est capable d'amener une production à la hauteur des dernières années? L'année passée, c'est 14 buts. Il était sur un rythme de peut-être 25-30 l'année passée. Est-ce qu'il est encore
il
capable?
Jouait
on pose la question.
C'est le ratio est un peu plus bas, mais pour moi, il n'y a pas de temps à montrer encore de baisse de régime s'il est en santé. Ça va probablement venir. Mais tu sais, la lourdeur de son contrat, Vincent, à un certain moment donné, on va... c'est sûr qu'ici, dans les 6 prochaines années, on va commencer à en parler. Parler de son salaire puis dire, OK, là, on est rendu au point où Gallagher est peut-être moins intéressant que ce qu'il nous a démontré. Et on n'est pas rendu là encore, mais dans les 6 prochaines années, on va
y aller. Mais moi, Denis, il y a une chose qu'il faut absolument que je mentionne, parce que quand j'entends ça, je reviens tout... Moi, dans ma tête, il y a toujours une équation. Des mauvais contrats, chaque équipe en a. T'es mieux d'avoir un mauvais contrat que tu as choisi parce que tu aimes le joueur. Un mauvais contrat que tu es obligé de donner puis tu n'aimes pas le joueur.
Bon point.
Puis la Ligue étant ce qu'elle est, il y a des joueurs qui vont être surpayés pour mille et une raisons. Gallagher fait partie de cette catégorie-là parce que, tu sais, là, tu te dis tout le temps, sa durée de vie comme joueur de hockey, l'usure, etc. Mais moi, pour moi, c'est même pas... il vaut l'argent qu'il revendique pour l'ensemble de l'œuvre. Ouais. C'est tellement une inspiration pour son équipe et tout ça. Mais maintenant qu'on a dit ça, je me souviens une époque où on préparait des alignements pour les championnats du monde, par exemple. Puis là, on regardait les joueurs qu'on avait sur la table. Puis là, on disait, lui, il a 25 buts dans la Ligue nationale, il a 30 buts. On n'a pas son joueur de centre, vient pas, là. C'est quoi la caractéristique de son joueur de centre? Puis moi, dans le cas de Gallagher, la première caractéristique que fait que Dano et lui, ça fonctionnait, c'est que Gallagher ne transportait pas la rondelle en zone
bleue.
Dano, c'est en ligne droite d'une ligne bleue à l'autre. Il faisait la grosse partie du travail pour le rendre efficace dans la zone-là. Maintenant, il faut trouver cette combinaison-là. J'ai bien aimé Dvorak quand je l'ai vu. Toute sa carrière, j'ai toujours bien aimé. Est-ce que c'est le fit avec Gallagher? Vous le dites, là, je le souhaite ardemment.
Oui, parce que sinon, on revient à ce que tu disais tantôt.
Moi, je dirais que Gallagher aime jouer avec des gars qui travaillent parce que lui est comme ça. Fait qu'il veut, il veut des gars qui vont dans le coin, il veut des gars qui vont en avant du filet, il veut des gars qui lâchent pas, qui sont sur la rondelle. C'est pour ça qu'il y a eu du succès avec Dano et Tatar, pour que les trois s'entendaient bien ensemble, parce que ça tournait... Les gars travaillaient pour aller chercher leur espace, pour aller chercher leur point, pour aller chercher leur production offensive. J'ai hâte de voir. Si on le met avec Drouin, est-ce que Jonathan va être capable de s'adapter au travail de l'éthique de travail de Gallagher ou ça ne marchera pas, puis on va être obligé de chercher. Si Gallagher ne compte pas pendant 15 buts, on va commencer à... C'est là que ça peut devenir lourd pour Gallagher. La production, c'est difficile.
Oui. Et le dénominateur commun de tout ça, c'est Dominique Ducharme qui va avoir à jongler avec tout ça, évaluer son monde. Et là, il n'y a pas le titre intérimaire. Là, il est l'entraîneur-chef du Canadien. C'est une première saison complète pour Dominique Ducharme. Lui aussi, il a les rênes. Ouais. Il a 3 ans devant lui. Plus grande marge de manœuvre là, pour travailler.
Assurément, mais il est d'une position qui est favorable. Bon, il y a la faveur populaire du public, donc une certaine patience. On va lui donner la chance de faire les expériences qu'il a besoin de faire pour trouver les bonnes combinaisons, les bonnes solutions. Je trouve qu'il y a des joueurs en place qui peut bouger, qui a des options, qui peut, tu sais, qu'il y a beaucoup de joueurs. C'est pas comme tu dis, là, il m'en manque, je sais plus qui mettre. Là, c'est comme je sais plus où les placer tout le monde. Parce que j'en ai trop, puis il faut que je garde tout le monde heureux. C'est un problème qui est un peu différent, là, mais d'établir son système puis sa philosophie du départ, pour moi, ça, c'est important cette année.
Mais le plus important, je trouve, c'est qu'il a gagné le respect de ses joueurs, il a gagné le respect de ses assistants-entraîneurs. C'est pas facile d'arriver là comme par intérim puis de gagner le respect de ta gang. De se rendre en finale, tu sais, même si l'histoire du COVID était quand même un élément important. Tu as vu l'équipe changer de la façon qu'ils jouaient. Je pense que les gars ont finalement acheté qu'est-ce qu'ils voulaient mettre en place. Puis c'est plus facile la deuxième année quand ils arrivent au camp d'entraînement. Maintenant, je pense qu'il y a le respect de tout le monde.
Donc là, ce sera un retour à la normale l'an prochain. Donc, Dominique Ducharme sans l'intérim. Retour à la normale parce qu'il y aura une vraie division, là, pas seulement une division canadienne. On va retrouver d'ailleurs les Bruins de Boston. Et aussi, je vous mentionne, ce sera le sujet ça, après la pause, mais un peu plus tard, première chronique de la saison de Manon Réaume sur son 33. Un petit peu plus tard, à tout de suite.